C'est une histoire difficile à ne pas mettre entre toutes les paires d'oreilles. L'histoire de Jocelyn Reynal, un détraqué sexuel. À 29 ans, il a violé et torturé son ex-compagne, mais il compte aussi une centaine d'autres victimes. Des animaux, des chiens, des poneys, des rats, auxquels il a fait subir les pires sévices sexuels. Ouvrons ensemble.
J'avais pu rencontrer, au fil de mes expertises, quelques...
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cotes B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
On de la traconte. Cote B sur Europe 1.
En mai 2020, à Sassenage, près de Grenoble, une femme alerte la SPA.
Bonjour, monsieur. Je suis venu vous raconter quelque chose que vous aurez du mal à croire, mais tout est vrai. Mon ex-petite amie, c'est un malade sexuel. Il torture des animaux. Il s'en prend à eux. Sexuellement, quoi. Il y a pas longtemps, il s'en est pris à Bianca. Une chienne. Je sais pas à qui avouer ça, alors. C'est pour soi que je suis venu vous voir.
Merci, madame. Merci. Nous allons agir et défendre ces animaux en allant le dénoncer au procureur de la République. Mais vous, madame, comment allez-vous? Vous n'avez vraiment pas bonne mine.
Je suis au pot. Je suis prête à sombrer. Il s'en est pris aussi à moi. Il m'a violé. Il m'a obligé à regarder ce qu'il faisait aux animaux. C'est horrible.
On va s'occuper des animaux, madame. Hein? Mais préservez-vous. Faites-vous aider. Et surtout, allez. Un mois plus tard, Jocelyn Reynal est interpellé chez lui et placé en garde à vue pour viol avec acte de torture ou de barbarie, mais aussi pour acte de cruauté envers les animaux.
Quand on ouvre le dossier, on ouvre directement un dossier de torture sur les animaux.
Maître Pierre Donghi, avocat de la Société protectrice des animaux.
Très rapidement, dès la perquisition du logement de l'accusé, on a la saisie de matériaux informatiques, de matériel informatique, avec des gigas et des gigas de vidéos, de photos, de tortures et d'actes de sadisme sur les animaux. On est véritablement face à quelque chose de tout à fait inédit dans la durée, l'intensité, la violence, la cruauté, l'absence d'empathie envers ces animaux. Souvent, on a des éleveurs ou des propriétaires qui sont négligents. C'est plutôt ça qu'on retrouve généralement dans les actes qu'on dit de maltraitance sur les animaux, de la négligence. Parfois, effectivement, il y a quelques faits de zoophilie isolée. C'est rare qu'on ait une multiplicité de faits de telle sorte. Et là, on a tout à un degré insoutenable.
Eh ben, c'est un peu l'horreur.
Raphaël Loiselot, expert psychologue.
C'est-à-dire que la magistrate chargée de l'instruction me dit d'emblée que les policiers qui ont fait les premières constatations, qui sont allés sur place, ont vu des choses tellement abominables qu'ils ont été obligés d'aller se faire prendre en charge par une équipe psychologique, qu'elle-même a dû se faire prendre en charge par des psychologues. Donc c'est un peu l'horreur. Et la magistrate me demande si je veux bien accepter une telle mission. C'est une question qui peut se poser dans la mesure où si je suis trop négativement impacté par des faits de violence, je ne vais pas pouvoir être objectif dans mon analyse, dans la manière dont je vais présenter la personnalité du mis en cause. Donc c'est important pour moi. Je me suis senti de le faire parce que c'est une mission qui était tellement hors norme que j'ai voulu, c'était presque un challenge pour moi, c'est-à-dire comment je vais faire pour appréhender un tel individu. Il a pu écrire des choses, je peux même pas en parler parce que en parlant, je vais traumatiser ceux qui vont m'écouter. Il a écrit des choses à ce point traumatisantes que les images, la manière dont il écrit renvoie à des images mentales, et les images mentales qui vont se former après ce qu'on va lire, ce qu'il a écrit, traumatisent. et je peux juste pas en parler. Sinon, je vais faire du mal à celui à qui j'en parle.
Bonjour, monsieur Reynal. Je suis expert psychologue. Nous allons passer un moment ensemble. Je ne vous juge pas. Je cherche à mieux vous comprendre. C'est important pour la suite de votre dossier. Ok, monsieur. Et quel âge avez-vous? Quel est votre métier? J'ai 31 ans. J'adore la cuisine. J'ai un CAP de cuisinier. J'ai travaillé dans des brasseries à Paris, à Limoges. Depuis 2 ans, je fous rien.
Vous savez, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on rencontre des stars de la transgression, en quelque sorte. Et là, on était vraiment à un niveau élevé. Et c'était intéressant pour moi d'essayer de comprendre ce qui peut amener une personne à être parfois tellement en dehors de l'humanité. Mais je vous avoue que ce genre de situation, je n'en referai pas tous les ans. Voire même, je ne sais pas si j'en ferai une derrière.
Au cours de la perquisition de l'appartement de Jocelyn Reynal, les gendarmes trouvent de nombreux instruments de torture. Chaînes métalliques, matériel chirurgical, crochets métalliques, sangles en cuir, et même une sonde dentaire. Quant aux experts informatiques, ils fouillent l'ordinateur de Jocelyn Reynal et à l'intérieur, ils trouvent 30 000 images et 10 000 vidéos sexuelles mettant en scène des humains avec des animaux, mais aussi des enfants avec des animaux. Il apparaît que Jocelyn Reynal assouvit ses fantasmes zoophiles sur le Darknet, cet espace incontrôlable d'Internet où l'on trouve tout.
Lorsque je pensais au métier d'avocat, j'ai pas souvenir qu'il y ait une affaire similaire qui soit sortie, qui m'aurait permis, quand je rêvais d'être avocat, de me projeter sur un dossier pareil.
Maître Maxence Pascal, avocat de Jocelyn Reynal.
J'ai rapidement décidé de le défendre et de le défendre jusqu'au bout. C'est pas une défense que j'ai sérieusement envisagé d'abandonner. Notre métier fait que on se crée quand même une forme de carapace et lorsqu'on lit un dossier, on le lit avec les questions juridiques qui se posent. Notre cerveau n'est pas totalement occupé à l'imagination de ce qui se passe, même si avec la relecture on le fait, mais on n'imagine pas l'odeur. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va systématiquement occuper notre esprit. Je n'aurais pas pu défendre mon client si j'avais pas cette distance avec le dossier.
Reynal, parle-moi. C'est ton baveu, il est là pour toi.
La première fois que je rencontre mon client, c'est au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Lyon-Corba. C'est un quartier, comme son nom l'indique, pour isoler des personnes qui sont susceptibles soit de faire l'objet de violences, soit d'en commettre sur des autres. C'est une grande pièce, c'est ce qui marque avec le parloir avocat classique, où là on est plus dans des petits box. Là il s'agit vraiment d'une grande pièce puisqu'elle abrite d'autres activités. Ce qui me marque, c'est que nous avons une position très distante, en ce sens que l'intéressé est situé assez loin de moi, il se place volontairement assez loin de la table. Ça dénote avec le dossier, parce que la première impression que j'ai de lui est finalement d'une personne, d'une banalité, eh bien assez frappante. Et lorsque l'on reçoit le dossier, qu'on va retourner le voir avec les éléments, finalement, tout au long des échanges que j'ai pu avoir avec lui, cette banalité n'a jamais totalement disparu. Il s'exprime parfaitement, ou presque, puisqu'il a un défaut majeur, si on peut parler de défaut, c'est qu'il va intellectualiser à outrance toutes ses réflexions. Quand on dit à outrance, c'est que lorsque vous lui posez une question, il n'est pas rare qu'il mette une bonne dizaine de minutes à répondre à la question, si tant est qu'il y réponde. Il a un langage qui est donc soutenu, mais encore une fois, cette intellectualisation va faire que sur une seule question, il va s'en poser des multitudes, c'est une manière de s'exprimer. J'ai jamais vu ça dans d'autres dossiers concernant les accusés. Ce qui frappe et interpelle, c'est qu'on a du mal à comprendre, non pas comprendre, mais à l'imaginer faire les actes qui lui sont reprochés.
Code B21, expertise psychiatrique de François Renaud. Sur son enfance, Jocelyn Reynal reste assez fuyant et allusif. Il parle d'une éducation normale et fait référence à une absence de réels souvenirs de la période infantile. Il sera élevé par ses deux parents jusqu'à l'âge de 7 ans, date de la séparation du couple parental. Par la suite, il est resté vivre chez sa mère et son beau-père jusqu'à l'âge de 9 ans, avant de partir vivre chez son père, chez qui il restera au-delà de sa majorité, jusqu'à l'âge de 27 ans.
Il a grandi en partie, en tout cas en grande partie, à la campagne, jusqu'à notamment le décès de sa mère.
Maître Maxence Pascal, avocat de Jocelyn Reynal.
Qui est intervenu dans des conditions tragiques, puisqu'elle est décédée d'un accident de cheval, en ayant été traînée sur plusieurs mètres. Lui dira toujours qu'il s'en souvient pas ou peu.
Donc bon, on peut faire des liens qui sont un peu de la psychologie de comptoir.
Raphaël Loiselot, expert psychologue.
En imaginant que sa mère ayant été tuée par un cheval, donc un animal, il va en vouloir à tous les animaux de la Terre. Et c'est pour ça qu'il va les violer et les dépecer ensuite. C'est un peu court comme raisonnement, mais il y a quelque chose qui possiblement l'a affecté de toute façon. On ne peut pas ne pas être affecté par un décès accidentel, surtout quand il s'agit d'un parent.
En fait, il considère qu'il serait trop facile de faire un lien entre le décès de sa maman, de faire un lien entre l'enfance et ce qu'il a commis. Il dira de manière générale qu'avec sa mère, il a très peu de souvenirs des relations qui étaient les siennes, très peu de souvenirs de son décès. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il expliquera qu'il commence à se souvenir de son enfance, donc aux alentours d'une dizaine d'années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a grandi dans un corps de ferme, en présence d'animaux, de nombreux animaux, et que c'est au moment du décès tragique de sa maman qu'il a fini par revenir en région parisienne. Il aura des relations qui sont, variable avec son père et sa belle-mère, puisque son papa a reconstruit sa vie. De bonnes relations avec sa belle-mère, mais des relations parfois conflictuelles avec son père.
Qui a fait du mieux qu'il pouvait. D'ailleurs, Jocelyn Reynal disait qu'il l'a fait comme il a pu avec le fils qu'il était, en laissant entendre qu'il était un enfant pas facile à prendre en charge.
Comment est-ce que ça se passait pendant votre adolescence? Vous aviez des amis ou vous étiez solitaire, esselé? Bon, je n'aimais pas trop avoir des amis. De toute façon, ils étaient trop bêtes, les autres. Ils comprenaient rien, ils étaient trop lents. Alors moi, j'allais en cours et je foutais le bordel. Je détestais rester assis à écouter un prof. Mais les autres élèves, comment étaient-ils avec vous? Ils vous malmenaient? Ah non, ils n'avaient pas intérêt. Hein. Sinon, je leur en collais une.
C'est un élève qui était brillant. Il était brillant, mais il a malgré tout eu un parcours plutôt chaotique, puisqu'il a redoublé deux fois une classe de troisième. Mais bon, il a été hospitalisé à ce moment-là, et il dit qu'il ne savait pas trop pourquoi il a été hospitalisé. Il parle de son impulsivité. Il dit qu'il n'était pas gérable par ses parents, donc il devait faire un petit peu comme il voulait, et ça devait déborder tellement le cadre éducatif que l'hospitalisation est devenue nécessaire.
La première fois qu'il a été interné de façon significative en hôpital psychiatrique, c'est lorsque, en salle de classe, son enseignant a suspecté de sa part une tentative de suicide en plein milieu du cours. C'est à ce moment-là qu'il va donc être interné en milieu psychiatrique pour un syndrome dépressif. Et puis ensuite, les hospitalisations vont s'enchaîner avec des diagnostics différents de psychiatres, mais globalement, qui poseront pas de maladie. Au stade de la terminale, son père expliquera qu'il s'est volontairement mis en échec pour passer le bac, qu'il n'a donc pas eu. Il va enchaîner sur un CAP cuisine et avoir quelques maigres expériences professionnelles qui se comptent sur les doigts d'une main et qui, dans leur globalité, se sont pas parfaitement déroulées, n'ont pas duré très longtemps. Et donc, nous arrivons avec quelqu'un qui va être titulaire ensuite de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui est une allocation qui est versée aux personnes qui souffrent de troubles d'une maladie et qui sont empêchées de travailler. J'ajoute pour l'anecdote que quelqu'un à qui on n'a jamais expliqué la maladie qui était la sienne, qui aurait justifié l'allocation de l'AAH, il a fini lui-même par refuser de percevoir l'AAH juste avant d'être interpellé et donc de ne pas accepter l'aide de l'État qui lui était accordée.
Code B21. Expertise psychiatrique du docteur François Renaud. Monsieur Jocelyn Reynal affiche avoir une vision particulière de la sexualité. Il se déclare zoophile et dit même avoir découvert la sexualité avec les animaux dès l'adolescence vers 14 ans. Il a fait ses premières expériences sexuelles avec des équidés puis des canidés. Il parle de penchants particuliers qui sont liés à une absence complète d'inhibition dans son approche de la sexualité qui n'intègre aucune limite et aucun tabou.
Il a une vie sentimentale qui est marquée par une première relation sexuelle avec une ânesse, et là il a 14 ans. Donc c'est quand même assez fou. Et je me souviens qu'il a parlé de cette première relation sexuelle avec cette ânesse comme s'il s'agissait d'une personne, puisqu'il me dit qu'il l'avait appris à la connaître. Il me dit même on avait appris à se connaître comme si l'autre était une personne. Et après, il rajoute que finalement, ça va que dans un sens. C'est-à-dire qu'il comprend bien que cette bête ne le connaît pas comme lui la connaît. Enfin voilà, il en parle comme d'une personne. Et c'est une première relation sexuelle qui me semble un peu toxique, dans le sens où elle lui paraît, elle nuit, en tout cas, normale et naturelle. J'avais pu rencontrer, au fil de mes expertises, quelques personnes qui m'avouaient avoir eu une relation sexuelle avec un animal, mais plutôt... dans des milieux, j'allais dire agricoles. Ce qu'il dit, c'est que il explique qu'il a toujours eu plus confiance aux animaux qu'aux humains. Il explique qu'il n'y a plus les barrières des tabous, il n'y a plus la barrière de la peur. Il explique qu'il est plus naturel, qu'il est plus détendu, qu'il a des rapports, ce sont ses mots, qui sont plus agréables avec les animaux, avec des relations qu'il a tendance évidemment à idéaliser. Il le dit, hein, il s'auto-persuade que les sentiments avec les animaux, les sentiments qu'il éprouve pour eux, eh bien, sont partagés. Il me disait que quand il avait l'occasion d'avoir des relations avec d'autres individus, c'était des animaux. Donc, on sent que c'est confus pour lui, cette limite entre l'humanité et l'animalité, c'est vraiment compliqué pour lui.
Code P21, expertise psychiatrique du docteur François Renaud. Jocelyn Reynal parle d'une hospitalisation entre 2009 et 2010, au cours de laquelle, sans qu'il le comprenne ou le contrôle, il a arrêté d'un coup d'être violent. Il parle d'une prise de conscience et fait le lien avec la structuration de comportements violents, et notamment de torture et de sévices sur animaux, jusqu'à les tuer.
Outre la zoophilie, pratique... la barbarie sur les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une part insoutenable et d'autre part complètement en décalage avec le fait qu'on va partager une relation avec un animal. On pourrait imaginer que cet animal devient un animal privilégié, mais pas du tout. Il était ensuite détruit par M. Reynal.
En 2015, alors âgé de 26 ans, Jocelyn Reynal est condamné pour la première fois. Le tribunal correctionnel de Créteil lui inflige 8 mois de prison pour maltraitance sur animaux.
Il a été condamné pour avoir découpé un chien dans la baignoire de l'appartement familial. Ce chien a été retrouvé dans les poubelles des parties communes.
Il a été pris en charge en hôpital psychiatrique et pendant ses soins, tout se passait bien, mais quand il était en permission, il allait violer et massacrer des animaux, et retourner à ses soins, et tout se passait bien. Donc non, on est là dans un champ de l'inhumanité qui dépasse un peu l'entendement avec Jocelyn Reynal.
Mon client se présente début 2019 à l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, au CMP, et va effectivement demander de l'aide, demander à être suivi et pris en charge surtout, parce que, expliquera-t-il, à cet hôpital, il a des pulsions, il explique qu'à chaque fois qu'il a des pulsions, il commet des actes de cruauté envers les animaux. Et l'hôpital psychiatrique, lui expliquant qu'il n'avait pas de médecin attitré, à son dossier, eh bien, il ne pourrait pas le recevoir. Il est donc reparti de la même manière qu'il est venu immédiatement après. On apprendra dans la procédure qu'immédiatement après, il lui sera reproché un acte de cruauté et un meurtre d'un chien. En tout cas, un acte de cruauté sur un chien. Compte tenu du discours qu'il aurait tenu, c'est vrai que c'est étonnant de ne pas le recevoir et de le prendre en charge.
Code B29. Expertise psychologique de Raphaël Loiselot. Jocelyn Reynal assure qu'il exècre le genre humain. Il dit « L'humain, c'est de la merde ». Jocelyn Reynal explique que ce rejet justifie son investissement des animaux et logiquement sa zoophilie. Nous nous demandons quel traumatisme désorganisateur précoce éveille chez Jocelyn Reynal une telle angoisse de néantisation qui lui fait abhorrer le genre humain. Nous pensons que son souvenir le plus ancien contient peut-être les germes de sa violence et de sa destructivité.
Dans son souvenir le plus ancien, il se souvient que, après que ses parents se soient séparés, il me dit qu'il est dans son lit et que sa mère, donc il dit pas maman, il dit Sonia. Il m'explique qu'elle est arrivée en pleurant avec un cadeau, des outils dans un joli coffre en bois, des vrais outils en métal utilisables mais de taille réduite. La question que je me suis posée, c'est comment a pu se transformer en colère puis en haine la souffrance de Jocelyn Renan, notamment lorsqu'il utilise pour le coup de vrais outils pour torturer les animaux. Un enfant peut aimer ce genre de cadeaux, mais comme on sait à quel point les outils chez lui avaient cette fonction de destructivité, ça m'a interpellé, hein, qu'il parle de cette boîte à outils comme étant son plus ancien souvenir. Comme si, finalement, on avait mis en main une arme de destruction massive, en quelque sorte.
Sur la question de sa vie sentimentale...
Maître Maxence Pascal, avocat de Jocelyn Renal.
On sait qu'il n'a pas eu de relation avant celle qu'il a eue avec les victimes. Il n'a pas eu de relation avec d'autres personnes, en tout cas humaines, qui s'est très rapidement concentré sur l'amour qu'il portait aux animaux. Et sa vie sentimentale... était rempli par trois personnes, et trois personnes qui étaient victimes devant la cour d'assises. Donc une vie sentimentale très pauvre, c'est quelqu'un qui se décrira ou s'analysera comme bisexuel, mais en réalité il expliquera aussi que les relations sexuelles avec les êtres humains, c'est pas quelque chose qu'il affectionne particulièrement, donc on n'est même pas dans l'ordre du bisexuel, hein. Et clairement quelqu'un qui est zoophile et se revendiquera comme tel.
Code B21. Expertise psychiatrique de François Renaud. Jocelyn Renal estime que la sexualité normale est chiante et que seule une sexualité extraordinaire lui amène une certaine satisfaction. Il déplore que cela puisse être mal vu. Jocelyn Renal a rencontré son ex-compagnon sur un forum dédié à la zoophilie. Ce dernier avait un fantasme de relation avec les chiens. Mais M. Renal décrit son compagnon réservé sur certains trucs. Il lui reproche certaines pratiques trop banales et d'avoir avancé des fantasmes non agis.
À mon avis, s'il va vers les humains et dans sa première relation avec un garçon qui deviendra d'ailleurs une de ses victimes, c'est aussi parce que cette personne se présente comme étant zoophile.
Raphaël Loiselot, expert psychologue.
Donc l'attrait pour Jocelyn Renal, c'est de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes bases que lui sur le plan des animaux. Et ensuite, son idée, c'est d'imposer à l'autre ses pratiques sexuelles perverses avec les animaux. Permettre à l'autre peut-être de jouir comme lui jouit des animaux, mais ça c'est compliqué parce que dans le viol des animaux, il y a aussi ensuite la part de barbarie. Et ça, les humains qu'il a rencontrés, qui pouvaient accepter ou supporter en quelque sorte cette part zoophile que Jocelyn Renal avait et qui leur imposait, n'ont jamais pu supporter la violence qu'il infligeait aux animaux.
Aux experts psychologues et psychiatres, Jocelyn Renal raconte. Je me rapproche de personnes à qui je peux apporter quelque chose. Je repère leur fragilité. Et alors, je prends une place importante et forte. Mon dernier compagnon, il détestait être seul. Alors il acceptait tout et n'importe quoi pour m'avoir avec lui. Ma dernière compagne, elle avait été abusée quand elle était plus jeune. J'ai voulu lui faire comprendre que la sexualité était un plaisir, lui donner confiance en elle. On a partagé une relation avec un chien, tous les trois. Et j'ai ressenti une vraie jouissance. C'est la première fois que j'avais un orgasme avec elle.
Même s'il y avait des traces, et ça n'a pas été contesté, de chantage exercé de sa part, j'ai toujours à l'esprit, et ça aussi, ça n'a pas été contesté, que mon client a toujours été direct et honnête avec les victimes, comme il l'a été d'ailleurs avec la justice. Et qu'il n'y a jamais eu de stratagème de sa part pour essayer d'obtenir ce qu'il voulait obtenir. C'était quelque chose qui l'imposait certes, mais sans ce côté manipulateur, sans cette manipulation. Ce que je pense, c'est qu'il y a eu là une conjugaison, une rencontre entre des personnalités, des victimes, qui, eh bien, au bout d'un moment, laissaient tout passer et acceptaient de faire ce que mon client leur demandait.
Concernant Jocelyn Renal, il attend de voir chez l'autre la réaction que va produire l'effet qu'il nous balance à la figure comme ça, ou les écrits qu'il nous donne à lire. il attend de voir ce que ça produit, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une forme de jouissance hein, chez lui à sadiser ses interlocuteurs, à leur faire du mal. Et s'il pouvait pas me faire de mal à moi en tant que c'est juste pas possible dans l'humanité, il pouvait m'en faire en me parlant des atrocités qu'il avait commises. Il cherche à contrôler l'autre. Je l'ai vu plusieurs fois, 4 ou 5 fois. Il ne se livre pas. Il faut vraiment établir une pseudo-relation de confiance, en quelque sorte. Mais qui passe avec lui par des phases où il va tenter de me soumettre moi aussi. C'est-à-dire qu'il me demande de dire au juge, il me demande d'intervenir, il me demande de faire des choses qui sont pas du tout de mon ressort. Hein. Mais on voit qu'il essaye d'avoir une emprise tout de suite sur la personne qui est en face de lui, quand bien même il sait qu'il est dans un cadre de judiciaire, que la personne qui est en face de lui, c'est un psychologue qui est missionné par le juge pour une expertise, donc un psychologue qui est expert judiciaire. Et ils sont fous de ça. Hein. Ce qu'il faut, lui, c'est le contrôle.
Il amène, voire il contraint ses compagnons à avoir des relations sexuelles avec des animaux.
Maître Pierre Donghi, avocat de la Société protectrice des animaux.
Malgré leur refus, malgré la terreur que cela leur génère chez eux. Et dans un certain nombre de cas, il va filmer les actes zoophiles pour ensuite utiliser ces images pour faire chanter, entre guillemets, les partenaires. On s'est interrogé dans le dossier sur le laps de temps entre les actes et les plaintes, et ça a pu être expliqué par justement la terreur imposée par l'éventuelle divulgation de ces images et de ces vidéos à caractère zoophile. Il sait, il sent, que ces actes sont insoutenables à supporter pour des tiers, et pour maintenir une terreur, il utilise ces actes comme une menace dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il explique par exemple à ses compagnons que si ils partent, s'ils ne sont pas présents, s'ils refusent un acte sexuel, eh bien, il mettra à mort un animal de compagnie, le cas échéant devant eux. Donc il utilise cela comme menace. D'ailleurs, ce qui est assez édifiant, c'est que à plusieurs reprises, il utilise l'hypothèse de la mort d'un animal pour contraindre un de ses compagnons à un acte sexuel. Compagnon qui acceptera finalement l'acte sexuel compte tenu de cette contrainte, et finalement, l'accusé mettra quand même à mort l'animal.
Sur le plan psychopathologique, je peux dire que il y a ces traits de personnalité qui sont franchement orientés vers la perversion et la perversité, et que ça, c'est quand même un trouble mental. Psychopathologique, sévère et qui met en péril son insertion sociale, familiale, affective et professionnelle. La perversion, ça indique chez un individu sa capacité pour amener l'autre là où il n'a pas forcément envie d'aller, pour lui faire faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire. Vous allez dire, c'est de la manipulation. Oui, mais c'est aussi une forme d'utilisation de l'autre à son insu, pour lui faire faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire. La perversité, c'est un petit peu plus archaïque que la perversion. Il y a ça aussi, mais ça peut aller jusqu'à la destructivité de l'autre. Et chez Jocelyn Reynal, on est dans ce cadre-là, puisque cette perversion qui va l'amener à faire faire à des animaux, qui évidemment ils ont rien à faire avec des humains, il va ensuite les détruire.
Code B29, expertise psychologique de Raphaël Loiselot. Il est possible de dire que Jocelyn Reynal est un tueur en série qui a sévi contre les animaux. Une extrême inquiétude est de mise car Jocelyn Reynal assure qu'il tuait les animaux avec de moins en moins de plaisir. La question se pose alors, jusqu'où va-t-il aller et vers qui va-t-il se tourner pour retrouver ce plaisir qu'il a perdu en tuant des animaux?
Je pense que Jocelyn Reynal aurait franchi le pas. Pour moi, c'est une évidence. Il sait qu'on est dans le registre des animaux, et il sait que dans notre société, c'est pas tout à fait puni de la même manière. S'il n'y avait pas eu les crimes de viol et d'actes de barbarie, il n'aurait mérité, pour la centaine d'animaux qu'il a massacrés, que 3 ans de prison. On est aux États-Unis, quelqu'un tue 6 chats, il passe sa vie en prison, vous voyez. Parce que aux États-Unis, ils ont pensé que, avant d'être un tueur en série, la personne pouvait s'acharner sur des animaux.
En novembre 2023, Jocelyn Reynal comparaît devant la cour d'assises de Grenoble. Ça fait 3 ans qu'il est tenu à l'isolement à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat.
Les actes commis sur les animaux, ça crée une distinction entre ce procès et tous les autres.
Maître Pierre Donghi, avocat de la Société protectrice des animaux.
C'est-à-dire que des dossiers de viol, malheureusement, devant les cours d'assises et les cours criminelles, c'est extrêmement récurrent. Là, il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire que au-delà de ces trois victimes humaines, on a des centaines de victimes animales qui sont visionnées par la cour. C'est-à-dire qu'on a des images, on a des vidéos. Ce qu'on ressent quand on ouvre ce dossier, c'est ce que l'accusé essaye de générer, c'est-à-dire forme de d'outrance, de terreur, qui nous empêche presque de raisonner. C'est-à-dire qu'on a du mal à se départir de cette insupportable cruauté pour réfléchir, pour analyser. On voit juste l'horreur qui interroge sur l'empathie, parce qu'en réalité, ce qu'on lit, ce qu'on voit à travers ce dossier, lui, il les a vécus en temps réel. Il a entendu les bruits des animaux qui souffraient devant ses yeux. Il a entendu les aboiements, les yeux. Il a vu les yeux implorants, les couinements, les hurlements. Et quand on imagine cela et qu'on se dit qu'il recommence, qu'il recommence, qu'il recommence à des dizaines de reprises, forcément, la première chose qui vient à notre esprit, c'est l'absence totale d'empathie. C'est-à-dire que c'est un homme qui a besoin de sentir sa toute-puissance sur la vie et la mort d'être vivant, de mammifère en l'espèce, qui a un point important d'ailleurs, qui a été souligné par les experts, c'est différent en termes criminologiques, en termes psychiatriques, de s'attaquer à des insectes, à des animaux qui nous ressemblent moins à nous, humains, qu'à des mammifères. Et dans ce dossier, c'est systématiquement sur des mammifères, et ça sera un point aussi important pour la cour quand il s'agira de s'intéresser à la dangerosité intrinsèque de l'accusé.
Mesdames et messieurs, la cour.
C'est un procès qui est difficile. D'ailleurs, la présidente a exceptionnellement demandé à 4 jurés supplémentaires d'être présents, dans l'hypothèse où les jurés ne parviendraient pas à tenir cette semaine d'audience qu'elle sera insoutenable. On a, comme d'habitude, un certain nombre d'étudiants, des confrères, qui viennent voir le procès, et au fur et à mesure, des articles qui paraissent sur le caractère tout à fait insoutenable de ce procès, sur l'horreur des actes, il y a effectivement de plus en plus de curieux qui viennent voir ce qu'il se passe dans cette salle d'assises au cours de cette semaine.
Faites entrer l'accusé.
Lorsqu'il se présente devant la cour d'assises, il a toujours la tête haute.
Maître Maxence Pascal, avocat de Jocelyn Reynal.
À un seul instant, il a détourné le regard de ce qui faisait l'attention de la cour, à savoir la projection des images. Il n'a pas voulu expliquer à la cour d'assises pourquoi il avait détourné le regard, si ce n'est peut-être que ça allait créer chez lui des questions, pas loin de frustration aussi, des questions auxquelles il ne pourrait pas, pour le citer, répondre, et donc il ne préférait pas regarder ses photos. Il n'aura pas de mots pour les victimes, il expliquera que s'il présentait des excuses aux victimes, les faits étant si graves, ce serait presque leur faire injure et les insulter. Moi, je pense que sa personnalité est toute guidée, justement, par la vision nihiliste qu'il a de lui-même. Il n'est rien, non seulement pour la société, mais aux yeux du monde entier. Il n'est rien et il sera jamais rien. C'est toujours guidé par cette vision qu'il a de lui-même. C'est pour ça qu'il détruit tout.
Maître Pascal, vous avez la parole pour la défense de Jocelyn Reynal.
La stratégie de défense dans ce dossier était très simple, c'est qu'il n'y en avait pas. C'était vraiment boire les paroles des victimes, les considérer comme étant la vérité et rien d'autre. Je plaide son parcours de vie de façon objective lorsque je suis dans la cour d'assises. Je plaide ma conviction du dossier. Le fait que je n'imagine pas que le décès de sa mère ait eu aucune incidence sur la construction de sa personnalité. Le fait que celui-ci se déteste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il disait tout à l'heure une vision nihiliste de lui-même, il se détruit. Et je plaide également que, à de rares occasions, mais elles existent quand même, on a pu voir dans sa personnalité, sa façon d'agir, peut-être des lumières qui nous permettaient d'espérer, certainement pas demain, ça c'est une évidence et on ne dira jamais le contraire, mais qui nous permettaient d'espérer qu'un jour il puisse être réinséré dans notre société et qu'il puisse avoir des outils pour mettre de côté ses démons et ressortir éventuellement de détention.
Jocelyn Reynal est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Il ne fait pas appel de sa condamnation. C'était On de la Traconte dans sa version psy, autrement dit sa version Code B. Rédaction en chef du programme, signé Guillaume Maury, enquête de Marion Douzé aujourd'hui. Réalisation Mathieu Fray.
Retrouvez On de la Traconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.